Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Guten Tag, bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Vue d'Allemagne.
C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston. L'un aimait les tomis, l'autre aimait les teutons. Chacun pour ses amis, tous les deux ils sont morts. Moi qui n'aimais personne, eh bien je vis encore. Maintenant, cher tonton, que les temps ont coulé, que vos veuves de guerre ont enfin convolé, que l'on a requinqué dans le ciel de Verdun les étoiles ternies du maréchal Pétain.
Dimanche, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande se retrouveront à Verdun pour commémorer le centenaire de la bataille la plus symbolique de la Première Guerre mondiale. 30 000 morts entre le 21 février et le 15 décembre 2016, des Français, des Allemands et des soldats des colonies. Nous y reviendrons dans un instant. Mais d'abord, direction l'Alsace, à quelques 250 km au sud de Verdun. Sur les flancs du Vieil Armand se trouvent les vestiges d'un autre champ de bataille important de la Première Guerre, le Hartmannswillerkopf. 100 ans plus tard, ce site est devenu un haut lieu de mémoire et un symbole fort de la réconciliation franco-allemande. Un symbole qu'une équipe de bénévoles des deux pays tente de préserver à la force du poignet. Réunis au sein de l'association Les Amis du Hartmannswillerkopf, les bénévoles se retrouvent chaque week-end pour restaurer le site, entretenir leur amitié et éclairer l'avenir. Katia Beach a suivi l'équipe en plein travail.
Pelle et pioche à la main, bottes en caoutchouc, ni le froid ni la pluie ne fera reculer notre vaillante troupe franco-allemande, bien décidée à entretenir l'histoire. Parmi eux, Richard, 68 ans.
On travaille ici dans un ancien bunker qui est recouvert de boue et de détritus. On nettoie et on dégage l'entrée pour que les touristes puissent voir à l'intérieur. Il faut le conserver, c'est comme un monument, un mémorial qui nous rappelle ce qui s'est passé ici et ce qui ne doit plus se reproduire.
Ils sont une trentaine de bénévoles de tous âges, venus d'Allemagne, d'Alsace et d'autres régions de France. Robert Leinhardt, président de l'association Les Amis du Hartmannswillerkopf, dirige les opérations.
On dégage toutes ces ordures qui sont dans le bunker. Ça nous permettra de voir aussi dans quel état il est effectivement à l'intérieur. Mais il y a d'autres interventions qu'on fait sur des murets ou des abris qui sont en train de s'effondrer plus ou moins. Ça, c'est pour qu'on puisse témoigner le plus longtemps possible encore pour les générations futures. Je vois surtout actuellement, là, les jeunes, ils sont dans un monde virtuel. Et l'histoire, même quand on prend les documentaires qui sortent des archives de l'armée ou un truc comme ça, ça reste de l'abstrait. Alors que quand ils rentrent dans un truc comme ça, là, on touche la réalité. Et là, ça prend une autre dimension. Il faut bien leur montrer que des deux côtés, c'était pareil. Comme disait Coluche à l'époque, l'ennemi, il est con, il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui. Et donc, là, c'est pareil. Il faut bien leur expliquer que, en temps de guerre, finalement, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a que des vaincus. Hein. Et le plus grand vaincu, en plus, c'est l'humanité, parce qu'on perd des deux côtés.
Ça va, je passe. Grâce au travail des amis du Hartmannswillerkopf, le site est l'un des mieux conservés en France. De nombreux abris, des tranchées et un vaste réseau de galeries souterraines sont encore visitables.
Ici, vous allez monter vers la poche mitrailleuse qui était là-haut. Uh-huh. Là, vous voyez la galerie qui descend ?
Ouais.
Et tout le rocher, il est comme ça. Allez-y. Toujours
la tête. Sur la tête, ouais. On est long, c'est long.
Ah oui, il y avait des kilomètres de galeries. Hein.
D'accord.
Sur un parcours de près de 45 km, le visiteur peut faire une plongée fascinante dans l'histoire. Une histoire que chacun doit garder à l'esprit, estime Robert Leinhardt.
La vague migratoire qu'on a actuellement, c'est tout de suite chacun pour soi, de nouveau on ferme, machin. L'Europe est en train de s'éclater. Et ça, les gens ne font pas attention aux signes avant-coureurs. C'est comme ça que les grandes catastrophes sont arrivées. Et donc c'est important, quand on les amène sur le champ de bataille, de faire le lien entre le passé et le présent.
Donc là, c'est important que vous soyez des Français et des Allemands à travailler ensemble.
Ah mais je dirais que c'est primordial, parce que là, ça prouve qu'on a dépassé donc la barre du conflit, je dirais de réconciliation, on l'a dépassé aussi déjà, mais on est dans une attitude de renforcement de ces liens franco-allemands, de ces renforcements entre les peuples, et ça, c'est un signe très fort qui ne trompe pas.
Un siècle après la Première Guerre mondiale, Français et Allemands se retrouvent à nouveau ensemble dans ces tranchées, deux camps unis, cette fois, par un même esprit de camaraderie. Et pour Manfred et Richard, entretenir ce site, c'est aussi entretenir ces liens d'amitié.
Quand on travaille ensemble, ça nous rapproche. Ça permet d'entretenir nos liens et c'est ce que doit être l'amitié franco-allemande.
Et nous sommes européens. Nous sommes pour une grande Europe et une Europe forte, pas pour une Europe divisée. Maintenant, avec cette crise migratoire, c'est un premier défi pour l'Union. Et c'est pour ça que l'amitié, la camaraderie, c'est important pour l'avenir, pour nos enfants, pour qu'ils vivent en liberté et en paix.
Après une matinée de labeur, Français et Allemands se retrouvent autour d'une table pour partager le repas et le verre de l'amitié.
Vous voyez ici, on a des gens qui viennent de 3-4 régions différentes. Et c'est un peu comme si on était une petite Europe. Et la manière dont ça fonctionne entre nous devrait être un exemple pour faire fonctionner la grande Europe. Maintenant, espérons que tout ne va pas s'effondrer avec cette crise migratoire. Mais on va se battre pour ça.
Vous êtes à l'écoute de Vue d'Allemagne sur les ondes de la Deutsche Welle, émission spéciale à l'occasion du 100e anniversaire de la bataille de Verdun. Une bataille qui se déroule alors que la France est à la tête de l'un des empires coloniaux les plus importants du monde. Elle contrôle de vastes territoires en Asie et en Afrique, des colonies qui vont contribuer de manière décisive à l'effort de guerre en hommes, en matériel et en matières premières.
Wanga c'est militaire. Moi, engagé militaire, moi, pas besoin de galop, soutenez-moi du riz.
Entre 1914 et 1918, un demi-million de soldats des colonies combattent pour la France. Parmi eux, 160 000 tirailleurs sénégalais qui viennent de tous les coins d'Afrique. 30 000 sont chargés de défendre les colonies. Les 130 000 autres sont recrutés pour la défense de l'Europe. Certains passeront à Verdun. Entre 1914 et 1918, environ 30 000 Africains perdent la vie pour Paris. Des pertes énormes, comparables à celles des fantassins des troupes métropolitaines. Explication avec Julie Dandurin, spécialiste de l'histoire coloniale française, enseignante et chercheuse à l'Université Paris-Sorbonne.
Elle a recouru à des troupes coloniales tout au long de la guerre, pas seulement au cours de la bataille de Verdun, mais effectivement, il y a eu, après la guerre, et notamment à cause de l'affaire du chemin des dames, une polémique sur l'usage des troupes de couleur et en particulier des troupes noires pendant cette bataille de Verdun.
Est-ce que vous pouvez nous résumer cette polémique ?
Alors, la polémique de Blaise Diagne, est un député des quatre communes du Sénégal qui, lui, depuis le début de la guerre, en fait, estime que l'engagement des troupes de couleur est une très bonne chose. Et il espère surtout que cet engagement des troupes de couleur va permettre ensuite d'obtenir la citoyenneté française pleine et entière pour l'ensemble des tirailleurs sénégalais et par-delà de l'ensemble des populations de l'Afrique de l'Ouest. Il lance en fait cette phrase, mais qui va devenir une phrase polémique et qui fait encore polémique jusqu'à aujourd'hui, sur le fait qu'on utilise les Noirs pour économiser le sang blanc. Cette affaire va permettre surtout à Blaise Diagne de se positionner politiquement pour lui ensuite apparaître comme le grand représentant de la cause noire et il a lui aussi beaucoup participé au recrutement et les recrutements de 1918, on le sait, ont été en grande partie des recrutements forcés. Néanmoins, derrière la polémique, il y a véritablement en fait la question de l'enjeu de la place des indigènes dans les armées et que cet engagement normalement devait leur permettre d'obtenir la citoyenneté française. Et c'est véritablement là qu'il y a problème parce que à l'issue de la guerre, eh bien, ni les Noirs ni les Indochinois n'obtiennent cette nationalité.
Est-ce que la bataille de Verdun, par exemple, qui est largement commémorée en France ce week-end, va être aussi commémorée dans certains pays en Afrique ?
Il y a plusieurs périodes pour la commémoration. Juste après la Première Guerre mondiale, il n'y a pas particulièrement de commémoration, tout simplement parce que pour qu'il y ait commémoration, il faut qu'elle soit orchestrée par le commandement. Et le commandement ne se préoccupe pas de faire une commémoration en Afrique. Elle est faite en métropole sur les lieux où il y a eu des combats. Alors c'est seulement après, quand on commence à passer le cinquantenaire de la conquête coloniale, que l'on commence à évoquer en fait l'apport des troupes noires. Et puis c'est surtout ensuite, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on va chercher à recruter. Alors là, on va essayer de célébrer cette cause noire.
Beto va militaire, Muntu Sakana, tu couvri Kweto.
Je ne crois pas que cette mémoire soit valorisée parce que les tirailleurs, et particulièrement les tirailleurs de la Première Guerre mondiale, font plutôt figure de collaborateurs en fait, des Français qui n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils cherchaient à obtenir. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de gens qui se souviennent d'avoir eu un grand-père ou un arrière-grand-père. C'est une mémoire qui s'oublie et en s'oubliant, elle se dilue aussi beaucoup. Peut-être qu'effectivement, au Sénégal, l'image du tirailleur est meilleure qu'ailleurs parce que le Sénégal, aujourd'hui, aspire à donner le ton un petit peu de ce que devraient être les armées africaines d'aujourd'hui. Donc là, il y a une restitution de la mémoire du tirailleur, notamment à Dakar. Bon, il y a des expositions qui sont faites. Mais moi, il ne m'a pas semblé, pour ce que j'en ai vu, que la population de Dakar était particulièrement soucieuse des origines des tirailleurs. Aujourd'hui, c'est un fait qu'il y a eu des contacts avec les Français, qu'il y a eu la colonisation, mais tout ça, ça semble très loin à la plupart des Sénégalais.
L'éclairage de Julie Dandurin, spécialiste de l'histoire coloniale française et enseignante et chercheuse à l'Université Paris-Sorbonne.
Until the philosophy which old one race superior and another.
Les tirailleurs sénégalais, Verdun, la Première Guerre mondiale, ces sujets vous évoquent-ils quelque chose? En parle-t-on dans vos familles? Les commémorations sont-elles importantes selon vous? Vous pouvez nous écrire un mail à français@dw.com pour nous donner votre avis. Et puis pour télécharger et partager ce magazine, rendez-vous sur le dw.com/français. Vue d'Allemagne, c'est fini pour aujourd'hui. C'était Constance Van Kotze au micro. Bonne suite de programme et à la prochaine. Citizens of any nation.